Bon, moi, je ne parle que 5 minutes, hein, parce que notre conférence ce soir est surtout une conférence d'architecture. Je voudrais que Bernadette Chénier puisse avoir le plus possible de temps pour parler de cette architecture du tiers-ordre régulier. D'abord, on est tous heureux de vous retrouver, d'avoir des têtes nouvelles, c'est toujours intéressant aussi, d'avoir des gens qui viennent pour la première fois ou qui reviennent, c'est toujours aussi sympathique de les accueillir. Notre première conférence d'octobre, rappelez-vous, c'était autour de François. Notre deuxième conférence était autour de Claire. Il y avait une certaine logique à ce que notre troisième conférence soit consacrée au tiers-ordre et à un aspect du tiers-ordre totalement inconnu qui est le tiers-ordre régulier. Alors avant de parler de l'architecture du tiers-ordre régulier en Normandie, ce que va faire Bernadette Chénier, juste quelques mots d'introduction sur ces fameux tertiaires réguliers. Juste quelques mots pour vous dire que tout au cours finalement des moments, et en particulier au XIIIe siècle, au moment où se constitue de manière très diverse, très confuse, ce qu'on a appelé le tiers-ordre séculier, les tertiaires finalement, il y a toujours eu des tentatives de vie religieuse parmi ces tertiaires. Hein. Et ça a commencé dès le XIIIe siècle, et ça n'a jamais, et ça se produira encore au XIXe siècle. Hein. Parmi les tertiaires séculiers, il y a toujours eu des tendances, des germes de vie religieuse au sein de ces tertiaires. Et donc aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Chez les hommes, ils existent en France dès le Moyen-Âge, ils sont regroupés, des petites communautés qu'on connaît très très mal, et on va les connaître beaucoup mieux à partir d'une réforme de la fin du XVIe siècle qui est engendrée par le père Vincent Mussard. Hein, Vincent Mussard, c'est un nom qu'il faut connaître. C'est quelqu'un qui est lié à la Ligue, qui vit à la fin, qui naît en 1570, hein, qui va combattre au siège de Paris, qui va combattre au siège de Chartres, qui a en même temps des désirs d'érémitisme, qui est proche des Capucins, et qui finalement va essayer de découvrir la règle du tiers-ordre, hein, et finalement va s'établir au nord de Paris, dans l'actuel département du Val-d'Oise, une espèce de tentative de petites communautés érémitiques à Franconville. C'était leur première installation, 1596-1597. À partir de ce moment-là, ils vont se développer et leur première implantation parisienne ou proche de Paris est facile à retenir parce que c'est Picpus. Et c'est pour ça que assez régulièrement, on entendra ces religieux appelés soit des pénitents, soit des pères de Picpus, soit des Picpusiens. Ils auront des noms finalement assez divers, soit des tiercelins si vous êtes en Lorraine ou en Franche-Comté. Hein. Ils auront une branche féminine, hein, avec une magnifique église qui subsiste à Paris, qui est l'église Sainte-Élisabeth, hein, qu'on appelle à Paris les Élisabéthines ou en Lorraine les tiercelines. Quelques mots encore pour vous dire que parmi ces frères, ces religieux et religieuses, qui sont très inégalement repartis en France, hein, c'est pas comme les Capucins ou comme les Récollets qui sont à peu près présents partout, là ils ne sont que dans quelques régions, et en particulier on va les trouver en Normandie. Et bien parmi ces religieux, c'est assez curieux, ça vient peut-être de leur début un peu dans l'érémitisme, il y a une très forte proportion de mystiques. Je dirais que la proportion de mystiques, si on rapporte le nombre de mystiques, en tout cas de ceux qui ont laissé des écrits mystiques, par rapport au nombre total des religieux, on a l'impression qu'il y en a plus chez les tertiaires réguliers, chez les pénitents de Picpus. Et en particulier, vous avez des noms assez célèbres comme le fameux père chrysologue Chrysostome de Saint-Lô. Il y a toute une série comme ça de religieux qui ont laissé des textes, dont certains d'ailleurs ne sont pas édités, qui seront d'ailleurs peut-être certains bientôt édités. Paulin d'Aumale, enfin, il y a toute une série de religieux qui ont laissé des manuscrits, dont on a ici un certain nombre, et qui mériteraient, là, leurs historiens, ils ont contribué de façon importante à l'histoire de la mystique. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en même temps, vous voyez, il y a des grands mystiques, et en même temps, il n'y a jamais eu autant, pratiquement, de conflits au sein même de l'ordre franciscain que parmi eux. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps, en particulier entre provinces, à se faire des procès, à se faire des... c'est assez curieux, finalement. Et à la fois, il y a des aspects extrêmement différents. Je passe très très rapidement parce que là encore une fois je voudrais que Bernadette puisse parler le plus possible. Évidemment, ils disparaissent à la Révolution. Il y aura une petite tentative au XIXe siècle, d'ailleurs aidée par les Capucins, une tentative du côté d'Albi de relancer ce tiers-ordre régulier. Et ce tiers-ordre régulier a refleuri en France à la fin du XIXe siècle. Et il y a tout un certain nombre de ces tertiaires réguliers qui sont partis, en particulier, évangéliser le Mato Grosso au Brésil. Il y a beaucoup de frères qui sont partis au Mato Grosso. Aujourd'hui, il ne reste qu'une, quand même, une communauté qui se trouve au sanctuaire Notre-Dame de la Drèche, tout près d'Albi. Ils existent encore dans le monde entier, ils sont assez peu nombreux, je crois qu'ils doivent être à peu près 500. Je parle là uniquement des hommes, puisqu'il existe, comme je vous ai dit, des communautés de femmes, de sœurs franciscaines, tous ces gens-là suivant la règle du tiers-ordre. Bon, je crois que je vous en ai dit un petit quelque chose. Je laisse tout de suite la parole à Bernadette Chénier. Je vais peut-être faire voir quand même les photos, deux photos qui sont pour vous faire voir ce que c'est qu'un tertiaire, et en tout cas son habit et son scapulaire particulier. Bon, là vous avez, c'est simplement tiré d'un dictionnaire extrêmement célèbre de Pierre Elliot. Entre parenthèses, Pierre Elliot était lui-même un tertiaire régulier. Vous savez, c'est ce dictionnaire des ordres monastiques, religieux, qui est utilisé par tous les étudiants et dont on retrouve des reproductions dans tous les mémoires. Là, vous avez un religieux du tiers ordre de régulier. Et ce qui est remarquable, c'est son scapulaire. Vous voyez le scapulaire qui descend au-dessous de la ceinture,
au-dessous de la corde. Un peu comme les minimes.
Port de la barbe, jusqu'à une certaine époque en tout cas, et aussi la même manière de configurer le nom de religieux que les capucins. Par exemple, Vincent Mussard, quand il est devenu tertiaire régulier, on l'a appelé Vincent de Paris. Donc, même manière que les capucins. La photo suivante, j'insiste juste sur celle-là parce qu'elle me semble très intéressante. Jacques Callot, c'est le grand artiste lorrain. Jacques Callot avait toute sa famille, plus ou moins, dans l'ordre de Saint-François. Il avait une sœur qui était tiercelline. Il avait plusieurs frères de chair, qui étaient tiercelins, donc du tiers-ordre régulier. Un frère capucin et un frère cordelier. Or, dans cet arbre, ce qu'il appelle l'arbre aux franciscains, qu'on pourrait commenter pendant très longtemps, parce qu'il y a toute une symbolique, etc. Moi, je m'attacherai surtout, là, pour l'instant, uniquement aux habits des religieux. Regardez la différence, et en particulier, vous avez manifestement certains... Vous voyez, par exemple, celui-là, c'est un tertiaire régulier. Vous en avez d'autres qui sont des capucins. Manifestement, vous voyez peut-être que... celui-là est sans doute un cordelier, vous voyez. Il a son scapulaire qui descend pas trop bas et il n'a pas de barbe. Donc il a représenté, alors évidemment les femmes ne sont pas là, mais il a représenté un peu son environnement familial, sa propre fratrie, autour de cet arbre qui est très, très intéressant et très beau.